raconte moi Fache. Alors c'était comment Fache avant?
Dors macho caca, ma petite poucha, ma gros roja. Tu me frottes du chagrin si tu n'as point jusqu'à. Ainsi l'autre jour, un pauvre d'atelier, un ami clotanche.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce 5e épisode de l'émission Raconte-moi Fache. Lors du dernier podcast, nous étions partis à la découverte des Katiches. Cette fois-ci, nous allons vous faire découvrir la culture de notre région. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes en compagnie, comme d'habitude, de l'association historique et culturelle de Fache-Tumnil avec Janine Houdard et Cyril. Bonjour à vous deux.
Je suis Bénache de vous vérifier, mais Jean.
Bonjour.
Alors, pour ce 5e épisode, nous avons choisi comme sujet les termes du Nord, comme vous avez pu l'entendre. Donc, nous sortons donc cette fois-ci un peu de Fache-Tumnil pour vous faire découvrir le langage de notre belle région. En France, chaque région a ses petites particularités, ces petites spécificités qui se transmettent de génération en génération. Dans les Hauts-de-France, on parle bien sûr français, mais avec quelques petites nuances, comme vous savez, pas forcément comprises de tous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire les différents langages utilisés à l'époque et peut-être encore aujourd'hui dans notre région?
Alors, il faut savoir que ici, nous parlons à patois, le patois du Nord ou ch'ti, qui était un dialecte, une sorte de dialecte picard. Il faut savoir que ici, la région lilloise, et au croisement entre la fin du français picard qui vient au sud et la région flamande, flamingante, où on parle effectivement un dialecte néerlandais. On est donc au confluent de ça, donc on a des influences un peu à la fois picard et français, et flamand, pardon. On est donc dans une zone où on parle ce qu'on appelle du coup le flamand wallon, enfin, un dialecte wallon, en Flandre wallonne, qui s'étend d'une zone entre Bruxelles, Douai et Armentières. Et bien que relativement peu de personnes le parlent encore, il y a des expressions qui ponctuent les conversations entre les habitants du Nord et demeurent aujourd'hui comme des locutions verbiales. Il existe aussi le ronchi pour Valenciennes et, comme je l'ai dit, du coup le Picard, mais vraiment le vrai Picard, pour la Somme.
Merci pour ces explications. Et est-ce que vous pourriez du coup nous présenter plusieurs termes du Nord encore utilisés aujourd'hui dans la vie de tous les jours.
Un taboche. Ce mot désigne une tête humaine, une mauvaise tête. Quel taboche qui hoche si là, y a rien qui rate. Quel taboche si là, rien ne rentre chez lui.
Prendre ses clics et ses claques. Cela signifie vider les lieux, déguerpir. Je suppose que tout le monde aura déjà entendu la fameuse phrase « T'en prends tes claques et tu te barres ». Ensuite, nous avons aussi « mucher »,« camucher »,« camoufler », qui veut dire « se cacher ». Ah ben, je dis là, il s'est mouché dans le carrière. Encore, nous avons aussi « cafouiller », qui signifie initialement « fouiller malproprement ». Le terme un petit peu dérivé en disant « il cafouille, il a du mal à s'y retrouver ».
Dracher. Il drache tout dit ici d'un schnorr. Il fait un temps à pas mettre un quien court. Donc, il drache tout le temps, il pleut toujours ici dans le Nord. Il fait un temps à ne pas mettre un chien à la cour. Nous avons aussi comme terme rabrouer, qui signifie tenser, blâmer vertement. Le terme ouvrer.
Ouvrer comme...
Comme travailler.
Travailler, d'accord.
Comme les jours ouvrés, oui. Ouais. Au bout de 5 jours ouvrés.
Travailler, ce terme arrive de là. Un oissing. Oui, je vois passer l'oissing à les maisons. Ben, je vais nettoyer. C'est une toile qui servait donc à nettoyer et qui était originellement fabriquée dans le canton de Bailleul.
Comme une serpillière.
C'est la serpillière.
Merci, Danny Boone.
Du coup, est-ce que vous avez aussi connaissance de termes anciens qui ne sont pas forcément utilisés aujourd'hui?
Oui, j'en ai quelques-uns que je peux vous citer. Par exemple, avant le rattachement de notre région, de la région lilloise, au Royaume de France par Louis XIV en 1667-8, nous n'étions pas français. Donc, nous avions pendant plusieurs décennies l'armée de France qui venait régulièrement dans notre secteur pour des raids guerriers. Et donc nous les appelions les ennemis franchois. Oui, ça surprend quand on le dit, mais ça a bien existé, effectivement.
Les ennemis franchois.
Oui, les ennemis franchois. Pour rester dans le terme, dans le giron fachois, je peux vous citer par exemple qu'à Fache Village, il y a eu une cense, la cense du seigneur, qui s'est appelée le château à Mouk. À Mouk, Mouk qui veut dire mouche ou abeille. Ne me demandez pas par contre si effectivement le terme mouche pour ce château est lié à une odeur quelconque, je ne peux pas encore vous le dire.
Ce qu'on sait, c'est qu'en généalogie, on trouve quelquefois des noms qui s'appellent mouches.
D'accord, ok.
Des personnes portent encore ce nom-là aujourd'hui.
Le nom
mouche. Le nom mouche.
Mouche.
Mouk.
Mouk. D'ailleurs, il y a aussi des familles nobles qui s'appelaient Mouk et qui portaient en blason justement la représentation de mouches, voire même trois mouches dessus.
Ça avait une signification de se porter, non, pas forcément. Il y a aussi une expression, je crois, on peut dire Mouk à miel, non?
Oui.
Ouais.
Bah, on est plus sur le terme Mouk à miel, là, pour le château de Fache, en fait.
Là, oui, effectivement. Sinon, je pense que c'est plutôt le terme Bokashuk. Bok Mouk, c'est vrai que ça se ressemble. Pour rester encore sur le thème de Fache, nous avions aussi à Fache ce qu'on appelait les courtiaux de Fache. En clair, c'était tout simplement le groupe d'habitation qui s'organise autour de la rue Kléber. Et courtiaux est un vieux mot français qui signifie à peu près jardin. De toute façon, dedans, on retrouve le mot court. Nous avions aussi la cense de la fenouille sur Thumesnil. Autre terme que je peux vous citer, le mot lait, L-E-Z ou L-E-S. Dans d'anciens documents écrits, cela signifie du côté de, provenant du côté de. Donc, quand vous regardez des termes, des noms de communes du genre Marquette-les-Lilles ou Tartampion-les-Oies, ça veut dire en fait que la commune en question se trouve proche de Lille ou proche de Machin-Truc-Chouette. On utilise aussi « les » pour différencier une commune à une autre commune homonyme. Je peux encore vous citer le terme « ambe deux », qui voulait dire « tous les deux ».« Issel »« Isselui », qui s'est progressivement muté en « celui-ci »« celle-là ». Et je vais citer le terme ribaude que ma collègue va peut-être mieux expliquer que moi.
Alors, en fait, dès le XIIIe siècle, quand on fait un petit peu de recherche historique, la ribaude, c'est une femme de mauvaise vie. Donc,
une catin bas étage.
C'est ce qu'on entend par femme de mauvaise vie.
Tout à fait. C'est généralement une personne qui ne porte pas la coiffe et qui a la robe qui est au-dessus de la cheville.
D'accord.
Pour être quelqu'un de bien, il fallait avoir la robe qui est sous la cheville. Donc, à l'époque, on appelait ça les ribaudes.
Donc c'était par l'allure de la personne qu'on disait que c'était une ribaude. Enfin, la coiffe
Elle se démarquait des autres en ne portant pas donc, la coiffe et en ayant la robe qui remonte au-dessus de la cheville. Et généralement, effectivement, c'était des femmes à soldats. Comme on pourrait dire en d'autres temps.
D'accord, merci pour les précisions. Et est-ce qu'il y a des termes du Nord, du coup, qui sont rentrés dans le vocabulaire de notre époque, ou bien, du coup, qui ont laissé des traces pour des noms de rues, villes, structures, autres? Je pense que vous en avez déjà cité, mais il doit y en avoir d'autres, peut-être.
Alors, on a bien entendu le Bonnier. Hein, on l'a déjà évoqué lors d'une précédente émission. Donc, c'est une mesure de terre qui équivaut à 1 hectare quand il y en a 76 centières. Donc nous, les 5 bonniers, on a 5 fois ça. Un carpentier qui est devenu un charpentier.
C'est à l'origine du coup du mot charpentier aujourd'hui?
Oui.
Un carpentier.
On a le terme amiteux, amiteuse. Donc c'est une personne qui est affable, qui fait des amitiés. Et d'ailleurs, certains cabarets de la métropole ont porté ce nom, comme à Los ou à Wattignies. Et d'ailleurs, sur Wattignies, nous avons un quartier qui porte encore aujourd'hui le nom de Amiteuse. Nous avons aussi le béguinage. Donc, à l'origine, cet établissement accueillait gratuitement des femmes pourvues de plébandes. Alors, je n'ai pas trouvé ce que signifiait plébande. Tu ne sais pas non plus ?
Ça n'en pas non plus.
Ce qui leur donnait droit à un appartement séparé. De nos jours, effectivement, les béguinages sont des petits appartements qui accueillent des personnes âgées.
Du coup, le béguinage vient du Nord. Enfin,
oui, c'est un terme de chez nous. On a l'épine, l'épinette. On retrouve ça aussi dans certains textes. C'est un petit épineux, genre sapin ou aubépine. On a la pissatière.
La pissatière.
La pissatière, qui est un lieu connu très localement. C'est juste à la sortie de l'autoroute à Vanneville. Il semblerait que ce lieu fut un jour
traversé par un certain empereur du nom de Napoléon Ier qui aurait eu besoin, un besoin naturel pressant. Et comme à ce croisement aux confins des communes de Léquin, Vendeville et de Vachetuminil, il y avait un petit buisson. Il s'est arrêté avec son carrosse à calèche. Lui et son cheval ont été faire leurs besoins pressants derrière le buisson. Bon, cela reste à prouver et à démontrer, mais ça reste dans la légende locale comme une histoire. Et du coup, ça aurait donné ce nom. Savoir que pissatière, du coup, c'est la déformation du mot, enfin du fameux mot pissotière que beaucoup et nombre de gens de la génération années 50-60 ont connu dans beaucoup de communes. Et je peux aussi terminer peut-être sur, pour rester sur Fache, sur la rue du Colombier, par exemple. Colombier, le Colombier qui était la partie bâtisse dans les fermes où on mettait les pigeons.
Bah merci pour toutes ces précisions. Et est-ce que vous avez aussi des anecdotes particulières au niveau du langage, plus précisément à Fache-Tuminil ?
Et je m'en vais à Gardincourt. Un jour dans ma gardin, puis il y a un jour dans le cours. Quand on vous posez la question, où je sais que tu vas en vacances ?
C'est pareil.
Voilà. Donc, je m'en vais dans mon jardin et ma cour. Et je passe quelques jours dans le jardin, quelques jours dans la cour. Et c'est là où je passe mes vacances. En fait, je ne quitte pas la maison. Quoi. Mais comme on avait un jardin, ben, on était un petit peu en vacances. Voilà. Prends une caillelle et puis assieds-toi par terre. Non ?
J'ai pas la réponse, non. Je...
Alors, prends une chaise et assieds-toi par terre. Pour les gens qui ne voulaient pas s'asseoir.
Et ça, du coup, c'est des expressions qui sont vraiment plus sur Fache-Tuminil, enfin, qu'on utilisait ici, enfin, un peu dans la région, ces deux expressions-là.
Oui. Oui, c'est des termes qu'on employait régulièrement. Après, on en a plein d'autres. Hein, regarde un petit peu comment tu es fringué. Regarde un peu comment tu es habillé.
D'ailleurs, tu m'avais pas raconté une histoire sur une espèce de brouette à chien ou quelque chose comme ça, là ?
Une carrette à quien.
Ah oui, c'est ça, oui. Et c'était quoi, déjà ?
Alors, la carrette à quien, c'était une petite charrette qui était tirée par un chien.
Une petite charrette tirée par un chien. Et d'accord. Oui.
Et on a une photo sur la commune d'une habitation sur Tuménil. Devant l'habitation, il y avait le propriétaire avec sa carrette à chien. Donc, il faisait c'était un agriculteur. Il faisait les livraisons chez les habitants avec sa carrette à chien au début du XXe siècle.
Ok.
Sinon, après, viens sur mes cours, je vais te bercer.
Te bercer dodo, non ? C'est pas si.
Alors, viens sur mes cours, c'est viens sur mes genoux, je vais te câliner. Okay.
C'est la berceuse du soir.
Oui, bah, qu'on retrouve d'ailleurs dans ma petite quinquin, hein, des Rousseaux.
Et pas d'autres anecdotes particulières sur la région ? Après, bon, c'est vrai qu'il y en existe une multitude, mais pour des principales. Peut-être pour finir, du coup, y aller plus loin, parce que bah, vous connaissez aussi des animations, activités, festivités qui sont particulières au Nord-Pas-de-Calais et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et peut-être encore aujourd'hui.
Bien sûr. On a la braderie.
Ouais, le classique.
La classique braderie de Lille, qui est donc devenue une manifestation commerciale, mais qui, à l'époque, se déroulait en plein air. Et les origines de la braderie, d'ailleurs, remontent à 4 ou 5 siècles. C'était les seigneurs qui autorisaient leur personnel à mettre en vente leurs anciens vêtements.
Mais les vêtements, du coup, des nobles.
Les vêtements des nobles, ce qui leur permettait d'avoir un petit peu d'argent pour eux. Ça, c'est les vraies origines de la braderie. Mais depuis le début du XXe, c'est devenu très, très commercial. D'ailleurs, si on a appelé maintenant ça sous le terme de marché aux puces, c'est parce que, obligatoirement, au niveau de la préfecture, il est interdit de vendre des produits neufs dans un marché aux puces.
Okay.
C'est une obligation légale quand on fait les démarches auprès de la préfecture pour faire une braderie sur la commune. On doit employer le terme de marché aux puces et on ne doit pas avoir de commerçants. Ce ne sont que des particuliers qui vendent donc des articles anciens, des articles de seconde main, dont on parle beaucoup actuellement. Donc ça signifie aussi brocante, vide-grenier, et en Picard, on prend le terme de raiderie. Et donc, oui, la braderie de Lille, donc c'est la plus grande braderie d'Europe.
Ah, mais aujourd'hui, ça rassemble je ne sais plus combien de personnes chaque année.
De millions de personnes, et c'est plus de 20 kilomètres de parcours sur la ville.
Sacré événement.
Ensuite, on peut vous citer le mot Ducasse, enfin les mots Ducasse et Kermesse, c'est la même chose. La Ducasse du village. La Ducasse étant une scène populaire annuelle des villages et villes, en Belgique et dans le nord de la France, organisée généralement le jour de la fête du saint patron de la localité. Les régions, par contre, qui sont davantage influencées par la langue flamande, on évoque plutôt le terme Kermesse que Ducasse. Ça se traduit donc Ducasse et Kermesse par fête flamande, foraine, pardon. D'ailleurs, ça donnait l'expression, petite variante de l'expression qui va à la chasse par sa place. Ch'ti qui parle Ducasse, il perd hoche place.
Nous avons aussi un autre terme qui est très employé dans le Nord, parce que c'est un des lieux principaux de. C'est un sport d'ailleurs. Les coulonneux.
Je ne connais pas les coulonneux.
Les coulonneux, c'est ceux donc, qui ont un colombier. Ce sont des colombophiles et qui ont l'art de faire concourir des pigeons voyageurs. Donc, il y a tous les dimanches, pendant la bonne saison, vous avez encore sur la métropole pas mal de clubs colombophiles qui font courir voler leurs pigeons. Et généralement, ça peut partir. Ils mettent les pigeons dans des casiers le samedi en fin de journée. Et le dimanche matin, les convois partent généralement en région parisienne, en Belgique, et de différents lieux à 300, 400 kilomètres du lieu du pigeonnier. Et donc, ceux qui gagnent...
Premier pigeon qui est revenu.
Premier pigeon qui est revenu, parce que vous avez des composteurs chez le colombophile, donc qui permet de vérifier le numéro de bague et d'enregistrer ça pour savoir le temps qui a été mis entre donc le lieu de départ et le lieu d'arrivée du pigeon. On a eu sur la commune deux sociétés de colombiers, de coulonneux, qu'on n'a malheureusement plus maintenant, mais on en a encore quelques-uns, malgré tout, sur la métropole.
Oui, il y en a de moins en moins, mais bon, il y aura des passionnés.
On a toujours les passionnés, on a toujours des coulonneux. Vous avez tout le temps des coulonneux avec leurs colombiers. C'était un sport qui était très primé dans le temps. Et on a encore un autre sport qui était primé et qui malheureusement se perd de plus en plus. C'était celui de coqueleux.
Coqueleux, du coup, ça représente, je ne connais
pas. Coqueleux, c'est des concours de combat de coq.
C'est les galodromes.
Les galodromes, tout à fait. Donc, on en trouve très peu encore aujourd'hui parce qu'en fait, on ne peut pas rouvrir un nouveau galodrome. Il faut que ce soit quelque chose qui existe depuis des décennies. C'est très réglementé aussi comme sport. Et le dernier, à ma connaissance, qu'on a eu sur le secteur, se trouvait à Wavrin. Et il a fermé il y a 3 ou 4 ans parce que la propriétaire a fermé son café. Parce que généralement, c'était dans les cours de café que ce sport se passait.
Il y en existe encore ici dans
la région ? Il en existe encore quelques-uns dans le Nord, mais je pense beaucoup plus en Belgique.
Et pour la petite anecdote d'ailleurs, les concours de coq des coqueleux fonctionnaient un peu comme l'actuel tiercé. C'est-à-dire, vous misez sur le coq, que vous estimez peut-être gagnant ou le meilleur, et s'il gagnait, le gagnant raflait toutes les mises, et avec les mises, il pouvait se payer le luxe d'aller acheter un plat en état et de faire graver sur ce plat en état, et en fonction de la mise qu'il avait gagnée, son petit nom en disant « un tel, roi 2 ou reine 2 des Coqueleux, telle année ». Parfois même, il précisait dans quelle commune ça s'est passé. Et parfois même, pour ceux qui étaient suffisamment riches, faisait poinçonner du coup des beaux petits dessins, comme un coq qui a battu l'autre, des petites vaguelettes. Ça, on en retrouve assez régulièrement, ce genre d'artefacts.
On en a retrouvé, là, dernièrement, sur Fâche et sur Vendeville.
Fâche, ça permettait de laisser sa trace. Mais après, il l'a posé, du coup, dans le galodrome.
Non, il faisait ça chez eux.
Chez eux.
Il y avait une partie, la partie haute du buffet, où maintenant, on va avoir tendance à mettre les verres. Mais là, il y avait les belles assiettes, les beaux plateaux...
Ce genre de plateau, d'ailleurs, on les retrouve assez régulièrement en vente. Au bout d'un moment, certaines familles ne sont plus intéressées. Et des fois, ça part en vente et on les retrouve des fois. Fâche, par exemple, on en a retrouvé un il y a 2 ans qui date de 1830, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça.
Et je me permets une petite anecdote au sujet des coulonnettes des colombiers. Par exemple, vous avez à Lille, un monument qui est dédié justement aux pigeons, à l'action des pigeons durant la Première Guerre mondiale. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, mais les pigeons ont eu un certain rôle d'un point de vue militaire, vu qu'à l'époque nous n'avions pas les téléphones portables pour envoyer des SMS, donc pour communiquer sans que ce soit pris par l'ennemi, en espérant que ce soit pas pris par l'ennemi, on envoyait les pigeons avec le fameux petit message accroché à leurs pattes. Ah oui. Il ne faut pas croire que les pigeons sont des animaux bêtes. Hein.
Et d'ailleurs, Lille est l'un des seuls lieux où il y a un monument pour les pigeons.
Un monument pour les pigeons ?
Oui.
Il se situe où ?
Au niveau de la citadelle, il me semble.
Oui, au niveau de la citadelle, quand on arrive par le pont Napoléon, il me semble. Sur ce secteur-là.
Ouais, c'est ça. Il me semble, oui.
Et ce monument, c'est un pigeonnier ?
Non, c'est juste une espèce de grosse stèle en disant okay. Merci aux pigeons.
Je ne sais même pas si ce n'est pas un soldat avec un pigeon.
C'est
un soldat avec un pigeon. Et on retrouve aussi ça au musée du plein air. Il y a aussi un colombier qui a été reconstitué. Il y a une plaque en dessous qui explique justement que pendant la Première Guerre, les pigeons... avait été mis à l'honneur. Parce que c'est, je ne sais plus combien de milliers de pigeons qui sont morts aussi au cours de la Première Guerre.
Et enfin, pour terminer cette question, je peux vous citer les fameux fous de l'équin. Non, pas les fameux quand même, ce serait porter préjudice aux léquinois. Mais il y a une expression qui a couru autrefois, c'est « Ah ben celui-là, il a pris un coup d'aile ». Ou alors, celui-là, il a fait un tour à l'équin. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Eh bien, en fait, historiquement, il y avait, au lieu dit, le moulin de l'équin. Le fameux moulin de l'équin, justement, qui se trouvait trop près du croisement de la rue Gustave Delory et de la grande route de Douai. Là où il y a maintenant l'actuel kebab, le moulin de l'équin. Et il s'est trouvé qu'un jour, un malheureux de l'équin, justement, se soit trop approché du moulin, qui était en train de tourner, justement, et une des ailes a heurté sa tête. Et malheureusement, il est devenu handicapé à vie, d'après ce qui est écrit par les chroniques de l'époque. Et Et du coup, c'est de là qu'est née l'expression « se prendre un coup d'aile de un coup d'aile ». Parce que du coup, bah, c'est rendre quelqu'un sain d'esprit à quelqu'un de justement handicapé et un peu bébête. Par extension, du coup, les gens de l'île ayant vu cet handicapé se moquaient de lui et l'expression est restée. Et c'est déformé en « les fous de l'équin » pour parler des gens qui allaient à l'équin à proximité de ce moulin.
Et le moulin avait été construit de base trop proche des rues.
En fait, autrefois, ce moulin-là, c'était le moulin du Seigneur. Il était autrefois placé à peu près au niveau du cimetière actuel de l'Équin. En 1715, et avec autorisation de l'hospice comtesse qu'il y avait un droit de molage dessus, le Seigneur de l'Équin l'a fait déplacer de cet emplacement au croisement de la route de Douai avec la rue Gustave Delory. Mais il n'y avait pas encore, on va dire, de réglementation à cette époque pour les mettre plus ou moins proches de la route. Jusqu'à temps qu'on soit rendu compte que les ailes de moulin effrayaient les chevaux.
Le bruit des ailes effrayait les chevaux qui avaient tendance à ruer dans les brancards et donc à faire tomber ce qu'il y avait dans la carrette, dans la carrée.
Du coup, les moulins suivants ont été construits en décalé par rapport à la route. Et le fameux moulin de l'Eka, par contre, a été une dernière fois déplacé un peu plus loin sur la rue Gustave Delory avant d'être complètement battu. En parlant d'ailleurs de carré, justement.
Oui.
Ça me dit quelque chose, attends. Ah oui, carré. Carré.
Une carrette, une carriole.
Ah bah oui, la carrette, la charrette. La charrette.
On allait faire les foins et puis on mettait chaud dans le carré. Tu te rappelles quand même?
Ah bah oui, bah c'est de là en plus que... Ah oui, c'était de ça que tu me parles, la carrette à quien, là?
Bah oui.
Bon, bah on reste carré, alors. D'ailleurs, quand on dit carré...
Bah, d'ailleurs, tiens, t'as un fermier devant de ville, là.
Oui.
Il s'appelle Carré.
Oui.
Bah pourquoi, t'navi?
Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, Ah oui, il s'appelle Carré, Carré, hein, comme le carré.
Oh. Bah oui, comme le carré de foin.
Oui, donc au final, c'est pas si bête que ça, alors.
C'est un nom ancien qui vient donc d'un métier, comme on en a d'autres, qui s'appellent charpentier ou qui s'appellent les fileurs.
C'est de là que du coup on dit que les agriculteurs, ils font un carré de paille dans leur carrette. Ah, donc en fait, t'es en train de me dire que la famille Carré, elle s'appelle Carré parce que depuis... La nuit des temps, ils font des carrés de foin chez eux, c'est ça?
Ils sont agriculteurs.
Bon, ben, ceci explique cela, alors.
Mais t'as oublié de dire.
Quoi?
Ils habitent dans un sens.
Ah oui, la sens. Le sensier?
Ben ouais.
Ah, c'est quoi déjà ça? Pourquoi on dit sens et sensier, pas ferme ou fermier?
Ben, c'est les termes anciens qui voulaient dire ferme ou fermier.
Ah ben oui, c'est vrai, dans les beaux, on disait prendre en ferme et en bail, en ferme bail, une cince de telle contenance. Ah bah oui, c'est vrai. Et c'est de là que du coup le terme ferme est resté au détriment de cince, de sens.
Exactement.
Et bah on a eu droit à un beau discours de l'époque. On remonte un peu l'histoire.
Tout à fait, mafieux.
C'est vrai. Ma cheva tout chaud.
Est-ce que vous avez d'autres remarques du coup sur le sujet, d'autres mots peut-être, quelque chose à ajouter pour les auditeurs, auditrices?
Bah, on a beaucoup de jeux anciens qui perdurent encore aujourd'hui. On ne va peut-être pas préciser quels sont ces jeux, mais on a le jeu de boules, on a les jeux de boules, on a le tir à l'arc, le tir à la perche. Le jeu de javelot. On avait beaucoup d'arrière-cours de café. Donc, des débuts du 20e, qui accueillait encore ces différents clubs sur la métropole.
Oui, c'est tout simplement lié aux activités de l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi nos activités pour nous distraire? Quand on ne travaille pas, on a la télé, on a les émissions de télé, on a des sports, des choses comme ça. À l'époque, c'était différent, il faut se remettre... Dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas la même technologie qu'actuellement. Comment faisaient nos ancêtres pour s'amuser? Bah, ils faisaient avec, pas les moyens du bord. Ça fait un peu réducteur, mais ils faisaient avec leur imagination.
Bah oui, le tir à l'arc, c'est l'ancêtre du fusil pour le chasseur. Donc, il y avait des concours aussi pour savoir quels étaient les meilleurs tireurs. C'est d'ailleurs le pourquoi s'était développé aussi à partir du 15e et 16e siècle le tir à la perche, par exemple. Donc la perche, c'est des espèces d'oiseaux qu'on met en haut d'une perche et où le tireur à l'arc doit faire tomber l'oiseau.
Est-ce que ce serait de là que vient donc le terme se percher ?
Possible aussi, tout à fait.
Bon.
Donc, le tir à l'arc, c'est aussi un sport. C'est aujourd'hui un sport. Nous avons d'ailleurs un club d'archers sur la commune qui a remporté des prix au niveau national. On en a eu deux aussi sur la commune de club d'archers. Le javelot, on le trouve encore sur certaines communes de la métropole. Je pense notamment à Seclin, qui est encore un club de javelot. La bourle, on l'a eu sur la commune jusqu'il y a 3 ou 4 ans.
La boule.
La bourle. C'est pas du tout la même chose, c'est pas une boule. Ouais. C'est pas la boule de pétanque, c'est un morceau de bois qui a été travaillé, qui est un peu... et il fait une dizaine de centimètres de diamètre et 5 ou 6 centimètres d'épaisseur, mais qui est donc... travailler de façon à pouvoir rouler jusqu'à un endroit précis. C'est aussi un petit peu l'origine de la boule actuelle. Mais on faisait ça dans le temps avec des chutes de bois. Ce qu'on trouvait tout à fait à l'époque.
Peut-être que je peux rajouter un tout dernier petit mot, mais niveau fâche, par exemple, je peux encore vous citer le croisement, le carrefour des quatre chemins, et je dis bien les quatre chemins et pas quatre chemins, un peu comme quatre cantons. Pourquoi être quatre ? Ben, quatre, c'est trop...
Attaque la gorge.
Mais c'est le terme moderne. Dans le temps, dans l'ancien ch'ti, on avalait les mots.
Oui, c'était plus facile à dire. Quatre.
On avalait souvent des voyelles ou des consonnes.
Et puis, même l'expression « quatre chemins », c'est tout bête. Hein. Cette façon, quand on est dans un croisement en croix, il y a quatre chemins, quatre directions.
Mais du coup, le 4 après, c'est perdu petit à petit. Enfin, on qu'on dit tous 4 maintenant.
Non.
Maintenant, on dit 4, dans le temps, on disait 4.
Mais même encore maintenant, quand on tend bien l'oreille, dans la locution parlée, on dit plus 4 que 4.
Ça a tendance à rester plus ou moins. On a tendance à manger le R.
Oh, pareil, c'est la même chose que dans le mot champêtre, le gars de champêtre.
Ouais, j'ai entendu aussi. C'est vrai que c'est tout ce que vous avez dit là, c'est tout des mots qui ont construit quand même un peu notre langue.
Tout à fait.
Au fur et à mesure des temps.
C'est comme ça qu'on dit qu'une langue est vivante. Mmh.
Ce sont des mots qui se sont francisés.
Ouais, puis je pense chaque
région. Dire à notre ancien franchois.
Mais je pense que chaque région a apporté sa patte à l'édifice, comme on dit. Et aujourd'hui, voilà, on a une langue un peu multiculturelle avec les différentes diversités de régions.
D'ailleurs, ça me fait penser, les jeunes emploient à l'heure d'aujourd'hui des termes qui sont existants depuis bien longtemps. Le daron, la daronne.
Qui n'ont pas du tout ce sens-là au départ.
Non, c'était un homme ou une femme. Maintenant, quand ils emploient ces termes-là, c'est le père et la mère. On a d'autres termes comme ça qu'on pourrait aussi évoquer.
On pourrait refaire un deuxième podcast facilement là-dessus, ou peut-être 2, 3, 4, 5.
Oh, 2, 3, 4, 5.
Non, peut-être pas tant que ça.
Ou peut-être 2 ou 3 podcasts à la queue leu leu. Ah, bah tiens, la queue leu leu. Queue leu leu. Bah oui, la queue leu leu.
Bah ouais, mais attends, dans le temps, on avait des leu.
Des leu, comme le trou à leu, le mont à leu.
Bah ouais.
Ah oui, et ça veut dire quoi déjà leu ?
Un leu, j'étais un loup.
Un loup ?
Ben ouais.
Ce sera l'époque des loups. Des leux.
Ben oui.
Et du coup, la queue leu-leu,
C'est un terme, les loups se déplacer en meute à la queue leu-leu.
Les uns après les autres, les uns à la suite des autres.
Voilà.
Ah ben voilà, à la queue leu-leu.
C'est aussi un terme qu'on emploie maintenant, mais dont on ne se rappelle plus l'origine.
Maintenant, on le fait plus en mode fête, mais voilà.
Oui.
Ah, je ne pas que je fais des dichisos.
Si, tiens.
Ah. Ah bah, t'en m'apprends une bonne, tiens.
Ah bah, de temps en temps, il faut reprendre chez vieux cours, hein. Et aller vire ses anciens, ils te expliqueront tout, hein.
Ah, c'est vrai.
Bah, je pense pour ceux qui écouteront ce podcast, ils en apprendront beaucoup sur la langue française et puis sur les...
D'ailleurs, on va peut-être terminer là-dessus. Il fut une époque où on n'avait pas le droit de parler en ch'ti à l'école.
Ah, c'était interdit ?
C'était interdit. On ne parlait le ch'ti qu'à la maison. À l'école, il était clairement interdit de le parler. C'est pour ça que ce langage s'est perdu énormément.
Mais attends, ça sous-entend quoi ? Qu'on n'avait pas le droit de parler ch'ti à l'école. Est-ce que ça ne sous-entendrait pas que c'était considéré comme une langue bâtarde, une langue pas bien vue ?
Ben bien sûr.
Mais attends, c'est culturel ça. Même si, effectivement, il y a peut-être des gens qu'on n'a pas envie de voir et qui parlent le même langage, mais c'est un peu réducteur.
C'était plus un langage de paysans. Donc, quand on évoluait, qu'on allait à l'école, il fallait qu'on parle correctement le français et non plus le ch'ti.
C'est pour ça alors qu'aujourd'hui encore, il y a un peu la petite persistance que « Ah, tu parles pas toi », sous-entendu, « Ah, tu parles... »
T'es de condition moyenne.
Voilà.
C'est un peu la langue du peuple, on peut dire.
C'est la langue du peuple.
D'ailleurs, petit parallèle, il s'est passé exactement la même chose en Flandre intérieure, du côté de Bayeul, Hasbrouck, dans ce secteur-là.
Avec Rouchy.
Pas Rouchy, le flamand.
Le flamand, oui.
Le flamand. Il était interdit, il y a beaucoup de témoignages qui le rappellent régulièrement, il était interdit de parler flamand à l'école dans les années 50 et autres, sous peine de se prendre une punition, parce que c'était très mal vu.
Et je pense dans d'autres régions aussi, même en Bretagne, une chose comme ça, c'est des langues qu'on...
Qui ne sont plus parlées.
Mmh. Et qu'on interdisait aussi à l'époque.
Alors, en Bretagne, ils ont quand même, je crois, repris certains cours de breton. Nous, dans le Nord, il arrive au niveau de certaines études supérieures où on a des cours de flamand encore. Mais il y en a très peu.
Mmh. Ouais, pour des personnes peut-être qui avancent beaucoup dans des études d'histoire ou autre.
Oui, tout à fait.
Particulier. Très bien. Eh bien, un grand merci pour toutes ces explications, tout ce langage sur notre belle région. Maintenant, je pense que les termes du Nord, ils n'ont plus aucun secret pour nous et pour les auditeurs et les auditrices. Pour clôturer ce podcast, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis à bientôt pour un 6e épisode de l'émission Raconte-moi Vache. Merci beaucoup, à bientôt.
À la revoyure.
Adieu mes jeunes. Qu'est-ce prêt, t'as chaud de la dormir, parraine Canchon. Elle est déjà monarchiste, ma t'auras du pain d'épices, du Chicago go, si que t'es sache que te fais dodo. Dors ma petit caca, ma petit pouche à ma gros rogin, te feras du chagrin si t'endors point jusqu'à demain.